Une vie, une œuvre. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour écouter le portrait de Youssef Chahine, le plus célèbre et le plus connu des cinéastes égyptiens. Portrait proposé par Toufik Hakem et réalisé par Christine Robert. Youssef Chahine, né le 25 janvier 1926 à Alexandrie et meurt au Caire le 27 juillet 2008 à l'âge de 82 ans. Cinéaste engagé, dans les films Gare Centrale ou encore dans Alexandrie Pourquoi, il brosse un portrait critique de l'intellectuel, analyse la société de son pays et critique l'affairisme. Figure libre du monde arabe, avec plus de 50 ans de carrière et 40 longs métrages, il a inscrit l'Égypte dans la map monde du cinéma mondial. À l'occasion du 10e anniversaire de sa disparition, la Cinémathèque française lui rend hommage jusqu'au mois de juillet 2019. Une promenade au cœur des mondes de Chahine, évoquant ses inspirations, ses passions, ses coups de cœur, ses coups de gueule, le parcours d'un maître de la mise en scène, d'un homme amoureux, la rage de vivre, la rage au cœur.
J'aime le Caire. Si profondément que quand on me pose la question comment, je me trouve recherchant les mots, les moments les plus beaux de mon existence, les vers les plus beaux que j'ai connus. Comment je t'aime, laisse-moi énumérer les manières. Est-ce que d'innombrables vestiges, fabuleux, mais ton île généreux, ton soleil resplendissant, aussi, mais comme un Français à Paris, évidemment. Mais moi, tu vois, moi c'est les gens que j'aime, pas les pierres. J'aime leur bonté, leur humour. Oui, le peuple égyptien est croyant, mais loin d'être fanatique. Il a le génie d'accoupler la vie et Dieu. N'est-ce pas ça l'amour à deux, ou même plus? Autrement, comment pourrais-je aimer 22 millions en même temps? Toute une capitale. J'aime ceux qui aiment vivre sans déranger l'autre. Et vivre assis, coincé dans 4 mètres carrés, on apprend à attendre l'autre, à le comprendre. Surtout à l'aimer. L'aimer. Bayama!
Voir tourner Chahine au Caire, on comprenait bien qu'il n'aurait pas pu tourner ailleurs. Enfin, c'était pas possible, c'était un dieu. C'était un dieu vivant dans les rues du Caire. Les gens s'arrêtaient. Déjà, le trafic autoroutier du Caire, c'est du délire. Mais alors là, quand on s'apercevait que Chahine tournait dans des conditions totalement sauvages, hein, c'est-à-dire qu'il posait la caméra et les choses se faisaient à toute allure. Les gens s'attroupaient, voulaient le toucher. Il était quand même le prince de la ville.
En fait, je crois que s'il y a quelque chose que j'ai appris de Chahine, c'est la joie de faire un film.
Chahine is an exceptional case. Exceptionnel.
Youssef Chahine, l'ami égyptien.
C'était un très bel homme, beaucoup de charme, beaucoup de... Un séducteur, hein, il aimait les femmes, il aimait plaire en tout cas.
Toufik Hakem, Christine Robert.
Chahine, c'est quelqu'un où on sent qu'il prend un tel plaisir en tournant. Il y a une vraie jouissance dans ses films. Ça déborde de vie, il y a une manière de regarder les gens, de regarder le sexe, de raconter les corps des hommes et des femmes. Il y a quelque chose de très sensuel dans les films de Chahine, de très très physique. On a beau dire ce qu'on a envie de dire de Chahine, on aime ou on n'aime pas ses films, c'est quelqu'un qui avait quand même une audace insensée. Insensée, c'était un paquet d'audace. Oui.
La force de Chahine, c'était d'avoir existé dans un pays comme l'Égypte pendant 60 ans de carrière, qu'il a fait 60 ans de carrière dans le cinéma. Il y a eu la période de films engagés, il y a eu la période de films autobiographiques, ensuite même si c'est des films historiques, mais il y a un cinéma que tu reconnais, il y a une image que tu reconnais, S'il y a des plans qui défilent en face de toi à la télé, tu sais que c'est un film de Shaheen, même si tu n'as pas vu le film. Tu le sens.
Et c'est pour ça que si tu vois mes films, peut-être que je suis le seul qui a réellement raconté l'histoire de l'Égypte. Ça, je le dis aussi modestement que possible, mais parce que c'est une vérité.
تكلم بلدي وتشم الورد البلدي وتعيش الحلم العصري يبقى انت اكيد المصري المصري
المصري الايجيبسيان. يوسف شاهين est le cinéaste qui a mis l'Égypte dans la carte mondiale du cinéma. En un peu plus d'un demi-siècle de carrière et une quarantaine de films, Yusuf Shaheen a aimé le cinéma par tous les goûts. Et en revoyant les films de Yusuf Shaheen, on a une idée précise de ce que fut le XXe siècle en Égypte. Grand témoin de son temps donc, mais pas seulement. Yusuf Shaheen est l'homme cinéma qui a révélé des stars comme Omar Sharif et Fatan Hamama, qui a inventé une manière de s'approprier tous les genres pour mieux les mélanger. Shaheen derrière et devant la caméra comme dans Gare Centrale et Alexandrie encore et toujours. Deux films très mal accueillis à leur sortie et qui sont aujourd'hui considérés à juste titre comme des grands classiques du cinéma arabe. Car avant d'être le metteur en scène le plus connu en Égypte et dans le reste du monde, Shaheen a dû subir tout ce que subissent les démiurges. Incompréhension, rejet, échecs commerciaux, censure et exil, polémiques et procès. Yusuf Shaheen n'affrontait pas seulement la censure et les conservatismes de sa région natale, il était aussi celui qui remettait en cause l'Occident et sa politique dite arabe. Et si l'ami égyptien était le dernier qui nous parlait encore depuis le centre du monde arabe? Une vie singulière, d'Alexandrie au Caire en passant par l'Amérique. Une œuvre généreuse qui comprend des films aussi importants que Le Fils du Nil, Saladin, La Terre, Le Retour de l'Enfant Prodigue, Alexandrie Pourquoi, Adieu Bonaparte, Le Sixième Jour, Le Destin. Et le temps de cette vie, cette œuvre, Bab el Hadid, la gare centrale du Caire, devient le centre du monde.
La première fois que je suis allé au Caire le rencontrer,
Olivier Séguré,
il m'a invité chez lui où j'ai logé pendant quelques jours.
Critique.
J'avais été très frappé de le voir tous les matins se lever vers 5 heures, prendre une espèce de grand cahier dans lequel il préparait le découpage du film qu'il était en train de tourner. C'était un cahier absolument magnifique, je ne sais pas si ces documents existent toujours, avec un code couleur selon qu'il s'agissait de décrire un mouvement de caméra, un éclairage, les dialogues, etc. Tout était extrêmement bien dessiné, prévu, enfin millimétré à un point qu'on n'imagine pas. Il fait partie, j'en ai rencontré quand même pas mal des cinéastes, de ceux vraiment qui sont des hommes cinéma, quoi. Il était complètement habité du matin au soir par ça.
Quand il arrive sur le tournage, il sait exactement qu'est-ce qu'il veut tourner.
Marianne Khoury, productrice.
La préparation, elle est aussi visuelle. Les repérages sont très importants pour lui. Il prend la photo du lieu, il la colle sur le découpage. Et là, il y a un storyboard complet, depuis le premier plan jusqu'au dernier plan.
Ces découpages étaient tellement rigoureux, tellement précis, tellement... On s'imaginait, on étouffe sur son plateau.
Yousri Nasrallah, réalisateur, ancien assistant de Yusuf Shaheen.
Mais non, cette préparation extrêmement ardue et rigoureuse, c'est ça ce qui lui permettait de créer ce qu'il disait le miracle sur le tournage, la surprise. D'être attentif à la surprise, à ce que lui donne le comédien, la lumière et je ne sais plus quoi, et à l'improvisation aussi. C'est-à-dire qu'il avait une vraie colonne vertébrale en main qui lui permettait d'être libre pendant le tournage et dans le montage. C'est quelqu'un d'extrêmement libre, Shaheen. Extrêmement libre.
Un nom, hé! Je vais m'en aller un peu. Je vais m'en aller un peu.
Youssef Chahine va raconter l'histoire du petit peuple de la mégapole arabe dans le Gare centrale, où il s'attribue le rôle principal. Un anti-héros, Kenawi, le lubrique vendeur de journaux qui boite.
J'aime Gare centrale.
Yousra, comédienne.
Et j'aimais Chahine. Je l'aimais avant même de le connaître, et à la folie même. Mais aussi quand je l'ai connu, je l'ai aimé pour d'autres raisons, plus intimes, pour ses faces cachées. Je me souviens que quand Youssef Chahine commençait à parler de lui-même dans ses films, les gens l'attaquaient.
Ils
lui reprochaient d'être nombriliste. Alors qu'il ne dévoilait que quelques pans de sa vie pour mieux partager une expérience de vie. Un réel vécu. Il évoquait aussi bien ses défauts que ses qualités. Il racontait tout. Et qui a eu le cran de se mettre à nu ainsi? Youssef Chahine montrait ses manques et ses tares aussi. Et c'est ça sa grandeur. D'ailleurs, Youssef Chahine a longtemps été un perdant. Il n'a pas connu la gloire du jour au lendemain. Mais aujourd'hui, son nom est passé à la postérité.
Gare centrale, c'est un très grand film personnel. C'est un très grand film sur la sexualité et la passion. Je me souviens très très bien de ce qu'il me racontait sur la réaction même de Iris, sa sœur, et du public en voyant le film. Ils étaient mais tellement choqués par le contenu. Mais qu'est-ce qu'on est en train de voir? Un mec en train de se branler devant des photos de pin-up, un fou, un érotoman qui veut violer une femme. Mais c'est quoi cette chose? Et je crois que c'était ça ce qui importait à Chahine. C'est quelqu'un qui avait envie de raconter une passion. Mais il me dit qu'on lui jetait des œufs pourris et que sa sœur ne voulait pas lui parler après avoir fait ce film. Elle l'a traité de dégénéré, je crois. Mais et puis petit à petit, ce film est devenu l'un des très grands classiques du cinéma égyptien, quoi. Évidemment que parler d'un amoureux dans une société, d'une passion sexuelle et amoureuse, dans une société assez conservatrice, c'est politique.
Marielle Khoury, vous avez travaillé avec Youssef Chahine, qui est votre oncle. C'est quoi l'histoire de la famille Chahine?
Comme tu sais, Chahine est né à Alexandrie en 1926, d'une mère grecque et d'un père syro-libanais qui venait du Levant, de Zahle. C'est lui qui m'a raconté aussi que le grand-père était chef de gare, en fait. Et c'est pour ça que Chahine était très obsédé par les trains. Et qu'il y avait des trains dans beaucoup de films, La Dame du Train, dans Ibn Nil, Le Fils du Nil... Gare centrale, bien sûr. Voilà, donc peut-être que ça explique un tout petit peu sa passion pour les trains. Il allait beaucoup au cinéma avec sa grand-mère. Donc il voyait les grands films dans les très belles salles de cinéma à Alexandrie. C'était vraiment la sortie. C'était pas cher, mais c'était cher pour eux. Donc il fallait faire des économies pour pouvoir aller au cinéma. Et il m'a raconté aussi que le grand-père Stelio aimait beaucoup le théâtre et le cinéma aussi. Et donc, c'est quelque chose, peut-être qu'il a été influencé par la famille, et que très très jeune, à partir de l'âge de 7 ans, il commençait à faire des ombres sous le lit, et il faisait des choses comme ça. Et donc, ça s'est développé très très vite, et à un très jeune âge, cette passion pour le théâtre et le cinéma. Il a vécu la période de la guerre, si tu veux, à Alexandrie. Donc Youssef Chahine jeune a grandi dans une atmosphère très cosmopolite à Alexandrie, où il y avait beaucoup d'étrangers, où on parlait toutes les langues dans la rue. Et très très jeune, apparemment, il a été chez les Saint-Marc, qui est un collège qui était juste devant l'immeuble où ils habitaient à Alexandrie, dans un quartier qui s'appelle Shotby. Ce n'était pas les grandes villas d'Alexandrie, mais c'était un appartement qui était magnifique, qui avait une vue sur la mer splendide. On dirait que tu étais dans un bateau. Et peut-être que c'est quelque chose qui a aussi influencé Chahine, parce qu'il y a toujours un bateau. Il y a toujours le train, il y a le bateau, il y a la mer. Donc pour lui, la mer, ça représentait beaucoup de choses. Et peut-être qu'il voyait l'autre côté de l'horizon. Peut-être que c'est quelque chose qui a aidé son imagination à se développer et à voyager. Ensuite, ses parents ont fait un effort monstre parce qu'ils voulaient qu'ils aient une très bonne éducation. Donc, il a été au Victoria College. Et au Victoria College, il a eu des amis comme Omar Sharif, comme Tawfiq Saleh, comme le roi de Jordanie, des familles très bourgeoises avec qui il a grandi. Et ensuite, il a fait un an d'université à Alexandrie où il a fait ingénieur, en fait, parce que son père avait très envie qu'il devienne ingénieur. Mais il a fait une seule année, ensuite il est parti aux États-Unis faire des études de théâtre à Pasadena Playhouse.
Amir Ramsès, réalisateur.
Je crois que d'un certain point de vue, comme Chahine, l'adolescent a vécu dans une...
Ancien assistant de Youssef Chahine.
Dans un... univers de métissage culturel, il y avait Alexandrie, vivre des cultures différentes. Je crois que son cinéma, c'était un peu ça. Le monde des comédies musicales, les thèmes humains, la question de l'autre qui se posait dans tous ses films. Il y avait l'influence cinéma d'auteur de la nouvelle vague, le néoréalisme italien et le post-néoréalisme italien. Je crois qu'il y avait un certain métissage même dans ses films. Et c'est ça aussi qui crée ce personnage spécial, qui crée une identité très personnelle à son film, c'est ce métissage de genre, de style et de message humain aussi.
Youssef Chahine est né catholique. On n'a jamais été pratiquant, je pense, dans la famille, mais il y a toujours eu des traditions. Et c'était beaucoup plus culturel que religieuse. C'est jusqu'aujourd'hui, par exemple, on fête Noël. Noël, c'est très important pour nous. Même s'il y a eu des mariages mixtes dans la famille. Mais Noël, c'est important. Il a grandi dans un contexte catholique. Mais il a vécu en Égypte où... toutes les religions se côtoyaient, surtout Alexandrie. Il y avait les juifs, les musulmans, les chrétiens. À l'époque de Chahine, on ne posait pas la question « Est-ce que tu es musulman? Est-ce que tu es juif? Est-ce que tu es chrétien ?» Tout le monde se fréquentait. Ce n'est pas comme maintenant où tout de suite, il y a des signes, même des signes vestimentaires qui te montrent tout de suite « Est-ce que tu es chrétien? Est-ce que tu es musulman? Est-ce que tu es juif ?» Ce n'était pas comme ça. Tout le monde se ressemblait en fait. Et tout le monde parlait les mêmes langues, tout le monde fréquentait les mêmes endroits.
من كتر المجرينا وكل حاجة حصلت بسرعة متهيالي لحياتي مش هشوفكم كويس
شد حيلك المهم ترجع لنا بسرعة ما تطولش
Comme il a raconté dans Alexandrie pourquoi la famille n'avait pas les moyens de l'envoyer aux États-Unis, de payer des études aux États-Unis. Et donc il y a eu ce concours de circonstances où il y a eu un billet, où ils ont ramassé l'argent de tout le monde. Toute la famille a fait des efforts. Tout le monde s'est sacrifié pour que Chahine parte aux États-Unis faire ses études. C'est comme ça qu'il est parti. Et il a pris le bateau. Il y a la fameuse scène où la maman lui dit... coupe les cheveux comme ça et le père et c'est une des plus grandes scènes d'Alexandrie. Pourquoi hein? Chaque fois qu'on voit ça on a les larmes aux yeux.
صغير قوي على المركب دي كلها.
وبدي أننا نتجمع ونحشد قوانا ونستعد للمعركة لتحرير الجزائر. الشيوخ، الشباب، النساء، الأطفال وجميلة.
كنت طفلة صغيرة شفت بعيني الفرنسويين.
En 1978, Youssef Chahine a 52 ans. Il a déjà réalisé 25 longs métrages. Il n'a pas seulement expérimenté tous les genres, comédie musicale, drame réaliste, film historique. Il est aussi celui qui a tourné le premier film sur la guerre d'Algérie en pleine guerre d'Algérie, rendant hommage dans Gamila l'Algérienne à Jamila Bouhired, l'icône de la révolution algérienne.
وكان لازم نعيش ازاي. دي قصتي، قصتك، قصة كل عربي.
Chahine a dû aussi s'adapter aux différents régimes égyptiens. Faiseur de films en studio sous le règne du roi Farouk, il a aussi beaucoup tourné en extérieur dans toute l'Égypte en louvoyant avec la censure étatique du président Nasser. Le président Nasser qui finira par nationaliser les studios et les sociétés de production cinématographique d'Égypte. Quand son successeur, le président Sadat, revient privatiser le secteur, Youssef Chahine crée sa propre boîte de production, Misr International Film. Pour financer ses propres films, Chahine opte pour les coproductions, d'abord avec l'Algérie, ensuite avec la France. En 1978 donc, Chahine tourne Alexandrie pourquoi, premier film arabe à caractère autobiographique. Acclamé par certains, conspué par d'autres, hélas un peu plus nombreux, le film est aussitôt interdit par la Ligue arabe, rien que ça. Ce film deviendra culte dans la clandestinité. Et aujourd'hui, il est reconnu comme l'œuvre maîtresse de Youssef Chahine.
Ya ayatouha al-malaika, ya ayyuha alladhina tamnahouna al-af, tamnahouna al-aman.
C'est un film qui a changé ma vie. C'est grand comme film quand même, c'est une représentation de l'époque. Toute cette image d'Alexandrie cosmopolitaine. Mon esprit politique s'est ouvert grâce à ce film. Déjà sur la question de l'autre, sur la question de l'échange culturel. On vit dans un état antipathique dans le monde arabe en ce moment. Dans ce moment et depuis les années 90. La montée de l'intégrisme, la montée des voix même de la gauche extrême qui refuse tout ce qui est européen, qui refuse toutes sortes de communications culturelles sous le contexte de préserver l'identité et le patrimoine avec un esprit très fermé. Déjà la question des religions, des minorités. Je crois que Alexandrie pourquoi m'a beaucoup appris.
مش بس أهلي وناسي اللي عاشوا هنا من قرون لكن طفولتي وأفكاري كله نابع من هنا.
La première fois que j'ai rencontré Chahine, c'était après avoir vu Alexandrie pourquoi à Beyrouth. Et c'était une période où il était extrêmement débridé. Sa manière de raconter la chose, c'est que j'ai eu une crise cardiaque. On m'a dit qu'il fallait absolument faire une opération à cœur ouvert. Et je me suis dit, après ça, je n'ai pas le temps d'enculer des mouches et de raconter des histoires, il faut que je dise la vérité. Mais c'était toujours une vérité show business. C'était moi et le monde. C'était pas moi. Le monde. Et moi, je suis le monde. C'était ça la vérité de Chahine. C'est un film comme ça qui vous on en reçoit plein la gueule quoi dans ce film. Il y a tout. Il y a la famille, comment il raconte la famille, comment il raconte la guerre, comment il raconte les histoires d'amour entre une fille blanche et un garçon noir qui tous les deux sont beaux. Elle est juive, lui est musulman. Il y a une histoire d'amour entre deux garçons. Il y a une, une, une liberté de temps. Il arrive à prendre des images d'archives en noir et blanc. Il les flanque en plein dans une... L'obus part en noir et blanc d'un plan et il tombe en couleur dans le plan d'après. Attends, c'est un film insensé, c'est un film complètement fou, quoi. Il y a un truc comme ça dans ce film, on se dit, mais j'ai jamais vu ça dans le cinéma égyptien, même pas dans le cinéma mondial.
It was announced in San Francisco half an hour ago by a high American official not identified as saying that Germany has surrendered unconditionally to the Allies.
Alexandrie, pourquoi, est un film qui a été tout à la fois très important dans l'œuvre de Youssef Chahine et qui a provoqué des remous puisqu'il a été interdit dans la plupart des pays arabes.
Ah ben vous savez pourquoi, c'est à cause de l'homosexualité dont il est question dans le film. Puisque c'est une histoire d'amour entre un jeune soldat britannique et un jeune égyptien.
Sûrement. Mais ce qui a été exprimé de manière très très claire, Sadat vient de signer les accords de Camp David et lui nous met au centre du film l'histoire d'amour entre Ahmad Zaki et Nagla Fathi. Elle est juive, lui est musulman. Et il parle de la fuite des juifs au moment de la bataille d'Al Alamein par peur des Allemands à la fuite des juifs d'Égypte. Donc c'est forcément un film pro-Sadat et pro-Camp David. On parle de Camp David, les juifs, les égyptiens, les arabes et je ne sais plus quoi, tu caches. C'est les deux arbres qui vont cacher toute la forêt de tabous qu'il est en train de casser dans le film. Le premier étant, mais j'en suis persuadé Tofi, le premier étant, comment oses-tu parler à la première personne du singulier ? Chose assez inédite, pas seulement dans le cinéma égyptien ou arabe, mais dans la culture arabe, où l'idée d'utiliser la première personne du singulier est assez mal vue. Il y a un genre de truc comme ça qu'on dit « Ana wa a'udhu billahi min kelmet ana »« Moi » et que Dieu nous garde du mot « moi ». Et là, du coup, à mon avis, ça a révolutionné en quelque sorte le cinéma arabe. Moi, j'ai vu le film dans un contexte assez ahurissant. Très drôle. J'étais à Beyrouth à l'époque et le film était interdit. Et puis, on me raconte que l'OLP et Yasser Arafat ont demandé une projection du film dans un cinéma juste en face du Saphir. Arafat regarde le film, sort les yeux bouffis comme ça, en disant « j'ai pleuré ». Ça m'a rappelé mon histoire d'amour avec je ne sais plus qui à l'époque. C'est un film qu'il faut absolument montrer. Et c'est comme ça qu'il a pu exister, le film, dans le monde arabe. Mais à Carthage, il y a eu un tollé contre le film.
Alexandrie, pourquoi est le dernier film de Youssef Chahine coproduit avec l'Algérie ? Désormais, c'est la France, et plus précisément le producteur Humbert Balzan, qui va coproduire les autres films de Youssef Chahine.
J'avais organisé en tant que conseiller culturel du président François Mitterrand, il était premier secrétaire du Parti Socialiste.
Jacques Lang.
Youssef est venu à des rencontres que j'avais organisées sur la Méditerranée. Nous avons sympathisé, on est devenus, j'ose dire, amis. Je veux dire par là que nous avions un rapport aisé, complice. Ce que j'appréciais au-delà de tout, c'était sa drôlerie. Le bonheur de vivre au Caire avec lui, c'était un délice permanent. Parce qu'avec lui, on découvrait des quartiers méconnus. On allait reconstruire le monde dans sa cuisine. On allait déguster chez Marianne Horry des feuilles de vigne farcies au pied de mouton. Je les ai encore en mémoire gustative. Et ils sont liés indissolublement à au souvenir de Youssef. Il avait la sensualité de toutes les choses de la vie. Alors, peut-être un autre souvenir, pardon, de parler en ancien combattant. Il se fait que Youssef Chahine, c'est la personne que j'ai reçue au ministère de la Culture le premier jour où j'ai pris mes fonctions de nouveau ministre de la Culture. Il me téléphone. Il me dit « Bravo, merci, bravo, je voudrais te voir immédiatement, mais je te rassure, quelques minutes. Viens, bien sûr, je lui dis, je viens. » Et donc il est venu rue de Valois, au Palais Royal, et il m'a simplement dit ceci, « Tu vas réfléchir sûrement à tout ce que tu vas entreprendre comme ministre, mais pense aussi à tout ce que tu pourrais faire pour encourager et soutenir les cinéastes des pays du Sud. L'idée a aussitôt germé dans mon esprit et nous avons mis en place toute une série de mécanismes et très vite, j'ai décidé d'encourager Youssef Chahine qui parfois se heurtait à des difficultés, notamment pour la réalisation du film Bonaparte. Je rêvais que nous puissions nouer avec l'Égypte et ses autorités des liens particuliers.
Adieu Bonaparte. C'était la commémoration de la campagne d'Égypte. Et on a dit, tiens, mais pourquoi pas faire un film sur la campagne d'Égypte et pourquoi ne pas demander à Chahine de le faire.
Ali !
Il n'y a rien !
Adieu Bonaparte est le premier film coproduit avec la France.
Tu vois, la France a répondu à notre appel. Nous étions 30 à signer la pétition.
Pour 30, ils envoient 300 bateaux.
En France, nous sommes tous égaux. On enquiquine un citoyen, et c'est toute la République qui est enquiquinée.
Et il a fait quelque chose de complètement insensé, quoi. C'est un film très dur.
Contre les fameux bienfaits de la colonisation, pour aller très vite.
Absolument, c'est complètement ça. Il a payé à travers une histoire de viol, en quelque sorte. À deux niveaux, viol un pays et tentative de viol sur un garçon. L'histoire d'amour entre Caffarelli et Ali. C'est ça le... Et de nouveau, les thèmes chers à Chahine. Qui es-tu et qui es-moi? Est-ce que j'ai le droit de te considérer comme m'appartenant? Que ce soit au niveau politique ou au niveau affectif ou sexuel. Hein, c'est ça les thèmes de Chahine. Gare centrale, c'est le même thème.
Les amours impossibles?
Je crois que c'est plutôt l'impossibilité d'amour. Tu ne peux pas t'approprier quelqu'un. C'est ça le thème de Chahine. La problématique, c'est quoi une occupation? Une occupation est une occupation, ce n'est pas de l'amour. C'est assez simple, en fait, comme histoire. Mais les gens ont toujours voulu... Et c'est ça, je crois, que le grand problème de quand on s'attaque à un contexte historique. C'est que les gens s'attendent à un sujet historique. Alors que le contexte historique n'est simplement pas là pour Chahine que pour raconter des trucs extrêmement personnels.
حاسب هدي شوية يا علي
ما تخافيش دي طلقة كذابة من ريحة البصل اللي جايباه معانا
Frédéric Bonneau, directeur de la Cinémathèque française.
C'est un joyeux bazar, c'est un joyeux bordel, Adieu Bonaparte, c'est un Capharnaüm quand même. Mais ce qui était très différent, c'est qu'en fait, je pense que Joe avait trouvé la figure du général de Bonaparte, interprété par Michel Piccoli, qui s'appelle Caffarelli, avec sa jambe de bois. Et donc, il avait trouvé le bon biais, en fait, pour faire un film très personnel à partir d'une reconstitution historique, d'une épopée historique. C'est que ce personnage de Piccoli, c'était lui, très clairement. C'est-à-dire qu'il pouvait admirer l'intelligence de Bonaparte. Et d'ailleurs, il avait dit à Patrice Chéreau, ce qu'il avait beaucoup flatté Chéreau, et à juste titre, il lui avait dit, pour Bonaparte, j'ai besoin de quelqu'un qui ait l'air intelligent, comme vous. Donc, bien sûr, Chéreau l'avait pas mal pris. Mais Bonaparte n'est pas au centre du film. Celui qui est au centre du film, c'est Piccoli.
Qu'est-ce que fait cette flatille, bon Dieu ? J'ouvre les carrés ! Je veux des pièces de 12 et 10 tout de suite ! J'ai besoin de plusieurs !
Vous en avez 10 par carré !
Mais il en faut 20 !
Le bateau du général Yaounski a coulé en plein île ce matin.
Mais merde, merde, merde !
Il manquait plus que ça. Un temple. Un temple. Du haut de ce temple.
Ah, citoyen Caffarelli ! En vrai connaisseur, écoutez ce que devrait dire Bonaparte à l'issue victorieuse de cette bataille décisive. Du haut de ce temple, 40 siècles vous contemplent.
Je doute que le général ait besoin de vos muses pour trouver les mots appropriés. D'ailleurs, c'est pas de si loin qu'il voulait chanter les pyramides. Mais quand je serai écrasé par leur majesté, je décrirai mon euphorie.
Anarchiste.
Et en fait, Piccoli ressemble beaucoup à Joe, c'est-à-dire que c'est un séducteur, c'est quelqu'un qui est pris entre les mondes et entre les cultures, qui va tomber amoureux, éperdument amoureux d'un jeune arabe, et c'est pas du tout l'image du colonisateur, alors que Bonaparte l'est.
Il l'aimait plus qu'un fils. Tu avais compris ça, toi. Une vraie passion.
Caffarelli emploie ce mot tout le temps. Passionnant. C'est presque de l'amour passion.
C'est suicidaire. Pas une intention qui ne fût édifiante. Pas un résultat qui ne fût désastreux. Un accident tout bête. Non, non. Il était inévitable puisque la violence était là, autour de lui. J'en partage la responsabilité.
Savoir que la pierre trouvée à Rosette pourrait faire communiquer des cœurs à 4000 ans de distance. Alors que pour moi, 4 minutes de vie loin de vous me sont insupportables. Mais il n'y a plus de vous, Ali. Il n'y a plus que toi, qui seul peut entendre le silence de ma solitude. Comme moi aussi, j'ai besoin de partager la tienne. Chercher à relier la Méditerranée à la mer Rouge. Quel élan. La route des Indes. Quelle chimère. Il n'y a plus que toi. Qui seul peut entendre le silence de ma solitude.
Noé, mon enfant ! Noé !
Serions-nous venus ici pour périr comme le pharaon ?
Eh non, laissez-moi ! Foutez-moi la paix !
C'est pas un film historique, c'est pas un film sur Bonaparte. C'est-à-dire que Bonaparte est présenté comme un personnage égaré.
Cannes, 1985.
Laissez-moi mourir en paix !
Michel Piccoli.
Alors, d'aucuns sont un peu choqués par ça, mais enfin, il était plus qu'un homme égaré en Égypte, puisqu'il a fait une campagne exceptionnel, mais qu'il a quitté le navire le premier en laissant ses généraux et ses soldats dans la catastrophe. C'était une nécessité politique. Alors quand on dit que certaines personnes disent que Chahine était irrespectueux avec Bonaparte, oui, heureusement, nécessaire.
Je me souviens. Serge Nanet avait adoré. Le maire de Cannes, de Nice, je ne sais plus qui a refusé d'assister à la projection d'un film contre l'armée française. Adieu Bonaparte ne plaira ni au public français, ni au public égyptien, c'est le moins qu'on puisse dire. Youssef Chahine enchaîne avec Le sixième jour d'après André Chédid et avec Dalida, peut-être l'un de ses plus grands films, mais l'accueil est tout aussi mitigé.
لا لا هنروح يا حلوة لإسكندرية
من بقك لباب السما السيمة قفلت لكنك 20 سيمة في بعض يا نهار أبيض انت هيي كويس يا جدع انت قول عليك
انت العسل
Pour moi, c'est l'une des rares films de Chahine qui n'est pas du tout politique. Le sixième jour, c'était un film qui n'avait rien à voir qu'avec les sentiments humains.
Là, Nastel. تستاهلي
كافيك لو ديزير كافيك
هقولك انا حاسس نفسي دلوقتي كمان
لا ستوبيديتي هيومن كي ايماجين كو بارفوا تو بوف ساكريفي لامور بور اون ريزون او بور لوتر
شاب عافيته زيك لازم له برنسستك الهبله تترمي تحت رجليه
Chahine respectait la faiblesse humaine. Il l'appréciait en fait. Il mettait en valeur la faiblesse humaine comme un avantage et pas comme quelque chose qui n'est pas bien. Et c'est ça qui le rendait très spécial aussi. Moi, je trouve que c'est le film le plus émotionnel de Chahine, quand même. Il y a de la chaleur humaine dedans. C'est les sentiments, ces relations d'amour désespérées entre Dalida et le professeur, et entre Oka, le jeune, et la vieille. Non, ça me touche beaucoup, c'est touchant le film.
Youssef El Nasrallah, pourquoi il a choisi ce roman d'André Chédid? Pourquoi à cette époque de sa vie, il va choisir cette histoire, ce road movie, cette histoire d'amour impossible entre une Dalida vieillissante et un Mohsen Mohyeddine toujours jeune et fou? Qu'est-ce qu'il veut dire par là, Youssef Chahine?
C'est toujours l'histoire d'amour impossible. C'est toujours l'histoire d'amour qui ne peut s'exprimer que par un acte de courage. Donc il y a besoin d'un alibi. Je ne peux pas avouer cet amour. À moins que... Il y a une marche qui est ratée avec ce film-là et dont il se remettra, en fait, je pense, jamais vraiment. Il y a un mécanisme, à mon avis, une dynamique, il y a quelque chose qui se brise avec l'échec du sixième jour. Et on en trouve des échos dans le film, c'est très troublant.
Voilà. Avec Jou. C'était au foyer des artistes de la Comédie Française. C'était un homme extrêmement chaleureux, très, très, très affectueux, vraiment. Il avait la cigarette, il avait toujours la cigarette malgré les doubles ou triples pantages qu'il avait eus. Il fumait toujours beaucoup. Il aimait la vie, quoi, voilà. C'était un bon vivant. Tu vois, là, je lui gratte la tête.
En 1992, Dominique Racle est l'attaché de presse de la Comédie Française.
Youssef Chahine avait été invité par Jacques Lassalle à venir mettre en scène ce Caligula, à une époque où la Comédie Française, sous la mandature de Jacques Lassalle, souhaitait s'ouvrir à des metteurs en scène étrangers, internationaux, et croiser un peu les disciplines, ce qui était à l'époque assez novateur, voilà, ce qui n'a pas été forcément très bien compris. Il avait mis dans ce spectacle beaucoup de choses ayant trait au cinéma. D'abord, la pièce, elle s'ouvrait par la grande chevauchée de Caligula, donc de Jean-Yves Dubois, qu'il avait filmé en forêt de Fontainebleau. Caligula arrivant sur son cheval, chevauchant. Voilà, donc il y avait l'arrivée du cinéma au théâtre, ce qui était aussi à l'époque assez nouveau. On ne voyait pas ça. Maintenant, on voit ça dans beaucoup de pièces de théâtre. Il y a de la vidéo, il y a des films, etc. Mais enfin, à l'époque, on ne voyait pas ça du tout. Il y avait Catherine Samy aussi qui jouait le vieux patricien. Il lui avait donné un rôle d'homme en fait à faire et elle avait été d'ailleurs remarquée par toute la presse dans ce rôle. Voilà. Martine Chevalier aussi qui faisait Césonia je crois et qui avait aussi un très très joli rôle. Voilà, il y avait une scène qui avait fait scandale d'ailleurs où elle était censée faire une fellation à Caligula, qui avait fait couler beaucoup d'encre, en fait, à l'époque. Bon, maintenant, je pense que ça ferait plus, inquiéterait plus personne. Mais enfin, à l'époque, à la Comédie Française, c'était pas...
Oh, ça ne fait rien. Je suis heureuse de ce que tu m'as dit.
Je dis tout ce que j'ai envie de dire.
Mais pourquoi ne puis-je pas partager ce bonheur avec toi?
Mais qui te dit que je ne suis pas heureux?
Mais le bonheur est généreux, il ne vit pas de destruction.
Alors, c'est qu'il est deux sortes de bonheur et j'ai choisi celui des meurtriers, car je suis heureux.
Je le dis à ma façon, moi j'aime rire, j'aime la musique, j'aime danser.
Je croyais avoir atteint l'extrémité de la douleur, eh bien non.
J'aime m'amuser, j'aime la dérision.
On peut encore aller plus loin.
Et on me dit, est-ce que ça se passe en même temps? Oui.
Au bout de cette contrée, c'est un bonheur stérile, mais magnifique.
Youssef Chahine.
Regarde-moi.
En 1992.
Entre Caligula, et Bonaparte, et Cléopâtre et moi, il y a des liens directs. C'était des êtres humains. Dès qu'on les considère comme des choses figées dans un texte, on les voit d'une certaine façon, avec certains gestes. Je ne comprends pas. Premièrement, je n'y crois pas. Ils sont mythifiés.
L'amour ne m'est pas suffisant. C'est cela que je comprends aujourd'hui encore en te regardant. Aimer un être, c'est accepter de vieillir avec lui. Je ne suis pas capable de cet amour.
Le personnage historique pour moi n'est pas figé, ça doit être quelqu'un que j'ai connu. Bonaparte, c'était mon voisin.
Mais sa vraie souffrance est moins futile.
Par hasard, il avait le même âge, il avait les mêmes coups de tête, la même ambition surtout. Hein, une ambition absolument incroyable.
Et Caligula, c'est un double? Un frère plus qu'un voisin?
Caligula, comme je l'ai dit tout à l'heure, je dis, non, c'est mon frère à moi. C'est dans ses idées de base, dans son intention, il est merveilleux. C'est quelqu'un qui a envie de voir les gens heureux.
Même la douleur est privée de sens!
Dans l'application de la chose, c'est une catastrophe.
Je sais que rien ne dure!
Et il réalise que c'est une catastrophe. C'est pour ça que ça devient un personnage tragique intéressant.
Savoir cela, nous sommes deux ou trois dans l'histoire, avoir accompli ce bonheur dément.
Césonia, tu as suivi jusqu'au bout une bien curieuse tragédie. Il est temps pour toi que le rideau se baisse.
Est-ce donc du bonheur, cette liberté épouvantable?
Sois-en sûre, Césonia. Je vis, je tue. J'exerce le pouvoir délirant du destructeur, près de quoi celui du créateur paraît une singerie. C'est cela, être heureux. C'est cela, le bonheur.
Il y avait un décor qui représentait des espèces de tours en verre, comme un espèce de quartier de la Défense, où il y avait des ouvriers casqués qui travaillaient dans le chantier. Et puis, tout à coup, apparaissaient les personnages en toge, en fait, surgis de l'Antiquité, en fait. Donc, il y avait un croisement des costumes très contemporains. Il y avait des costumes de para, Jean-Yves Dubois était en jean, et puis des costumes classiques. Voilà, donc c'était un spectacle, en fait, qui mélangeait les époques, les cultures. Et à l'époque, c'était vraiment assez nouveau.
والرجل دي دب دب دب.
Face à la montée de l'intégrisme, Youssef Chahine doit affronter une autre forme de censure. Pour répondre aux islamistes qui lui avaient intenté un procès pour avoir représenté dans L'Immigré un prophète, le réalisateur tourne Le Destin, ou l'épopée d'Averroès, le philosophe arabe andalou du XIIe siècle, commentateur d'Aristote qui s'est battu pour concilier philosophie et islam.
Le Destin, c'est un film prophétique, à la fois historique et prophétique. Ce film est une leçon pour le présent et pour l'avenir.
أكيد في عقلي جهنمي ورا كل ده
ولا همك بكتب لهم أغنية حجيب أجلهم
حاسب للأغاني تجيب أجلك أنت
C'est pas d'ailleurs ce qu'il dirait aujourd'hui. Il nous manque terriblement quand même vis-à-vis de tous les tartuffes qui aujourd'hui en Orient ou ici en France veulent imposer une forme d'ordre moral. Je pense que Youssef saurait trouver des répliques cinglantes et drôles qui auraient plus que nos discours à nous, intellectuels ou hommes politiques, mis en dérision ou fait éclater l'hypocrisie de tous ces fanatiques.
Cette fois, Youssef Chahine obtient la consécration à Cannes, avec la palme du cinquantenaire du festival. Un prix spécial qui lui vaut l'ouverture des journaux télé.
Quand un réalisateur est ovationné debout par une salle entière, c'est tout simplement qu'il a su lui donner du bonheur.
Le destin, hymne à la tolérance de Youssef Chahine l'Égyptien, lui vaut un prix pour l'ensemble de son œuvre.
J'ai le cœur qui bat, j'ai des papillons dans l'estomac et j'attends ça depuis 47 ans.
Chahine, il était entre deux mondes, donc il assumait ça. Ceci dit, il ne faut pas oublier quelque chose, hein, c'est qu'il n'était pas démagogue et il ne se compromettait pas. C'est-à-dire que moi, je l'ai vu à des dîners s'engueuler avec Hubert Védrine à Cannes sur la première guerre d'Irak. Je peux vous assurer que c'était quelque chose. Donc ses amis français, il leur disait aussi ce qu'ils pensaient. Il se faisait toujours mal voir. Chahine, toujours mal voir. En particulier, Le Destin, si je me souviens bien, est dédié, dès le générique, parce qu'il l'avait beaucoup aidé pour le tournage, pour des problèmes de production, au leader druze, Walid Jumblatt. Ben, je peux vous assurer qu'au Festival de Cannes, en 97, Walid Jumblatt, c'était pas hyper bien considéré. Ou quand Chahine prenait la tête de convoi humanitaire vers l'Irak de Saddam Hussein, entre les deux guerres du Golfe, c'était très mal vu aussi. Donc de ce côté-là, oui, il travaillait avec les Français, oui, ses films étaient en coproduction française, oui, il était sûrement très apprécié à Paris. N'empêche qu'il disait que à Paris, ceux qui le faisaient pas payer, c'était les chauffeurs de taxi arabes. Donc il était aussi connu par un certain public. Mais moi, j'ai jamais considéré qu'il caressait qui que ce soit dans le sens du poil. Je comprends qu'on puisse lui reprocher ça, parce qu'évidemment, la séduction n'est jamais très loin de la démagogie. Mais moi, je pense qu'il y tombait pas du tout. Et que, par exemple, souvenez-vous, il y a un film collectif sur le 11 septembre, fait par plein de cinéastes américains, etc. Eh ben, le sien, c'était pas un film tellement de réconciliation, hein. C'était dur et âpre. C'était un film, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était pas le regard occidental, compassionnel, habituel sur le 11 septembre.
Parce qu'il rappelait aux Américains toutes les guerres au Moyen-Orient ou parce qu'il faisait parler les flics américains en arabe?
Mais parce pas les deux. Les deux, mais ça c'est typique de ce genre de représentation délirante. Voilà, il pouvait faire ce genre de truc. Mais il oubliait jamais. Moi, il m'a toujours dit une chose, c'est que il me disait quand même, tous les dictateurs chez nous qui nous emmerdent depuis des années, qui nous censurent, qui accaparent le pouvoir, etc. Tous ces gens-là sont toujours soutenus par les États-Unis. Toujours. Ce sont toujours, à un moment ou à un autre, les marionnettes des Américains. Voilà ce qu'il disait. Donc là, dans ce rapport très compliqué avec l'Amérique, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il leur envoyait pas dire. Voilà. Il était très clair à ce sujet. Et je me souviens, mais même d'un article d'un ami à moi, qui plus est, de Jérôme Garcin, dans le Nouvel Obs, sur ce film collectif sur le 11 septembre, qui s'intitulait « Tous sauf Chahine ». Donc, il cherchait pas toujours à plaire. Hein.
Caméra.
Moteur.
Motore.
Odissea 14702 prima.
Cannes 2018. 10 ans après la mort de Youssef Chahine, le festival présente en compétition officielle le dernier opus de Jean-Luc Godard, un ami de Chahine. Le livre d'images donc, film dans lequel le réalisateur emblématique de la Nouvelle Vague, à coups de citations d'Albert Cosri, d'images d'archives et d'images de films dont ceux de Youssef Chahine, prend acte de la fin du dialogue entre l'Occident et le monde arabe et s'interroge comment écouter et redialoguer avec ceux qu'on n'entend plus. 20 ans plus tôt, c'était Serge Danier qui se posait ce genre de questions.
Microfilm.
Bonsoir, microfilm, 60e microfilm, et comme prévu, Youssef Chahine, un microfilm, faisant suite donc à Dalida, avec qui on a déjà parlé du film Le Sixième Jour, sur vos écrans déjà. Et aujourd'hui donc le metteur en scène du film, l'auteur du film, l'âme du film, autant le dire, Youssef Chahine. Alors, je pense qu'il est de moins en moins utile de présenter Chahine. Ce qu'on avait déjà dit avec Dalida, c'était qu'il n'y avait pas beaucoup de cinéastes, et surtout de cinéastes du monde arabe, et égyptien en l'occurrence, avec qui on avait finalement ce qu'il faut bien appeler un dialogue. Ça fait 5 ans, 10 ans que toutes les fois que Chahine fait un film, en général ses films arrivent ici, on les voit, et à chaque fois on fait le point avec lui de la situation qui est aussi bien celle, la sienne, qui est très très particulière, celle de son pays, qui est l'Égypte, et puis il y a aussi celle plus vaste, disons, du monde arabe, et puis après il y a le cinéma. Et je crois que c'est le seul cinéaste arabe avec qui on peut avoir une discussion tous azimuts, puisqu'il possède en lui-même toutes les dimensions qui font qu'aujourd'hui un cinéaste est un citoyen du monde. Et alors on en parlait avec Dalida et on disait, mais attention, parce que c'est un fil très ténu, c'est un fil très, très fragile. Pour le moment, on ne discute de cinéma, d'amour, de politique, d'art, de culture, qu'avec un seul cinéaste arabe, qui est Youssef Chahine. Si on raconte l'histoire du sixième jour, on voit bien que ce qui se passe entre les deux personnages, entre donc Dalida et Morsen, ça tient à un fil. Et toi, tu es l'homme qui tisse ce fil. Le jour où ce fil se cassera dans le réel ou dans le cinéma, il n'y aura plus de dialogue. Mais bon, on ne va pas finir sur une note polémique. On va dire aux gens qu'il faut absolument voir le sixième jour. Et puis, on va remercier Joe pour ce nouveau chapitre d'un dialogue ininterrompu qu'on a depuis quelques années. ضيها مليون نهار أبقى أنا المخبول وعاجز أبقى أعمى أبقى أخطأ دل المسار في العربي ترقع حتى مسمار أبخد عينيا وأشوف بيها راح تلاقيه جوه الجميل هتلاقيه أجمل وأجمل دول ما حبك له دليل.
Prenez mes yeux et regardez le monde avec. Vous allez le trouver encore plus beau, chantait Youssef Chahine dans son splendide film Alexandrie encore et toujours, qui résume si parfaitement son cinéma. Péplum social, comédie musicale, farce politique, où il est question d'un metteur en scène qui se remet en cause quand son acteur fétiche, Mohsen Mahyedine, le quitte pour aller rejoindre les rangs des frères musulmans. Sa joie contagieuse nous manque, ses coups de colère salutaires aussi. Youssef Chahine, l'ami égyptien, un documentaire de Toufik Hakem, réalisé par Christine Robert, avec les témoignages de Yousra, Marianne Khoury, Dominique Racle, Yousri Nasrallah, Amir Ramsès, Frédéric Bonneau, Olivier Séguré et Jacques Lang. Documentation INA, Inès Barja. Prise de son, Amandine Grévaux et Yves Lehorse. Mixage, Alain Joubert. Coordination, Christine Bernard, Pascaline Bonnet.
Vous pouvez podcaster cette émission et retrouver la collection Une vie, une œuvre sur la page du site sur franceculture.fr, une page préparée par Pascaline Bonnet avec l'aide de Nemo Camus. Tout de suite, nous retrouvons Étienne Klein et la conversation scientifique.